Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp au micro, je vous parle en ce 5 février. Alors que ça approche lentement, mais très rapidement, même la confrontation des quatre nations, lentement, mais très rapidement, j'ai l'impression que je vais me le faire dire par mes deux collègues qui vont être avec moi ce matin. Mais oui, confrontation des quatre nations la semaine prochaine qui va être du côté de Montréal et ensuite du côté de Boston, les meilleurs joueurs de la planète pour le Canada, les États-Unis, la Suède et la Finlande qui vont s'affronter. Est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui à l'émission? Non, on n'en parlera pas. Et là, pourquoi? C'est qu'on va avoir un balado juste pour vous à propos de tout ça la semaine prochaine, lundi prochain, donc aujourd'hui. Non, aujourd'hui à l'émission, ben écoutez, on va parler de ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal. On va parler des transactions, date limite des transactions avant le temps, même si on peut dire, parce que le dernier week-end a été assez, assez occupé au niveau des transactions. Trois transactions quand même importantes, donc on va parler de tout ça aujourd'hui à l'émission. Et on va faire un tour de... une petite tournée d'espoir. On va parler d'un des meilleurs espoirs de la Ligue nationale pour le prochain repêchage, Michael Mizan. On va aussi parler d'un des meilleurs espoirs québécois, Sacha Boisvert. Donc, ça va être tout ça en deuxième partie d'émission. On lance ça aujourd'hui avec mes deux coéquipiers, avec moi, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, Nick.
Et JF Chaumont. Salut, JF.
Bon matin, messieurs.
Fatigué, j'imagine, les deux? Tout comme moi, parce que des matchs à 10h30 sur la côte ouest, ça te magane le bonhomme, hein?
Oh oui, puis les filles se réveillent quand même à la même heure. Le cadran sonne quand même à la même heure, mais une joute à 10h30, 7h30, heure de San Jose. Ça se termine tard. C'était pas un classique non plus, mais non. On réussit à rester réveillé, regarder le match au complet, contrairement au collègue Guillaume.
Ouais.
Lui a choisi de se reposer.
Vous m'excuserez, j'étais pas très excité à l'idée d'un duel Canadien-Sharks. Et quand je suis revenu à la maison, je pensais que le match était à 10. Puis là, quand j'ai vu qu'il était à 10,5, c'est comme...
C'était trop.
Ça a été le dernier point là, qui m'a convaincu de faire l'impasse sur cet excitant match. J'en suis convaincu. Mais j'ai regardé les faits saillants ce matin, là, comme je faisais quand j'étais jeune, puis que j'avais pas le droit de rester éveillé passer la première période. Là, j'ai regardé les faits saillants ce matin me réveillant. Fait que plus en détail, je pense que Jean-François va mieux vous servir ce matin, mais pour le portrait d'ensemble, je vais être là, très présent.
Avant de se lancer, messieurs, sur toute cette émission-là, ben écoutez, j'invite les gens qui nous écoutent, vous nous écoutez sur le site web d'LNH.com, ben sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes à peu près qui peuvent exister. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez aisément nous trouver. Suivez-nous aussi pour ne jamais rater un balado, parce que là, avec la confrontation des quatre nations, là, on va peut-être avoir un balado ici et là, la date limite des transactions, bon, on sera peut-être pas tout le temps les mercredis dans les prochaines semaines, donc... Si vous ne voulez rien rater, ben, suivez-nous, abonnez-vous, comme ça, vous allez pouvoir nous écouter à la semaine. Les gars, on se lance, écoutez, victoire hier des Canadiens à l'arraché, disons-le, contre les Sharks de San Jose, qui, je le rappelle, occupaient et occupent toujours le dernier rang du classement général de la Ligue. Donc, honnêtement, JF, vu que toi, tu as écouté le match, tu n'as pas été paresseux comme l'autre. Y a-tu vraiment quelque chose à se réjouir de cette victoire-là, outre le fait qu'elle met fin à une séquence de 5 défaites consécutives du tricolore?
Ben ça, c'est l'unique, probablement, aspect positif. La dernière fois aussi, je me souviens d'un match à Buffalo où le Canadien avait gagné 7-5 début novembre contre les Sabres. On ne parlait pas d'un Picasso, mais cette victoire-là avait donné quand même un élan au CH. Probablement qu'on se croise les doigts pour voir un scénario semblable, mais hier, les Sharks sont dominés dans la colonne des tirs. Si ce n'est pas des deux arrêts aussi de Samuel Montembeault contre Macklin Celebrini en fin de rencontre, tout juste avant le but gagnant de Yoel Armia en désavantage, mais les Sharks auraient joué un vilain tour au CH. Finalement, il n'y a pas eu de vilain tour. Le CH qui gagne de peine et misère. Écoute, il y a
heureux.
Eu...
Non, on va te dire, là, il est heureux. Là. Il sait ce qu'il vient de faire, le GF,
c'est une catastrophe.
C'est pour ceux qui nous écoutent, en particulier dans le coin de la Naudière où c'est très connu, mais il y a une certaine chanson folklorique qui s'appelle Le Vilain Tour. Les gens en Europe Vous avez aucune idée.
Je vous invite quand même à l'écouter.
Non, je suis pas sûr.
Que... On donnera pas le contenu, mais faites une recherche, le vilain tour. En passant aux Sharks de San Jose, le lien était quand même très, très bien. C'était recherché.
Écoute, Martin Saint-Louis a déjà dit que son équipe s'est vomitue. Le vilain taux, c'est plus...
C'est plus bas.
C'est plus bas, exactement. T'es heureux, hein? Il est heureux. Il nous a presque dit avant l'émission qu'il allait la plugger. Il l'a fait.
C'est parce qu'il faut savoir que Jean-François a fait écouter cette chanson-là à peu près à chaque collègue qui faisait son entrée sur la galerie de presse à Brossard la semaine dernière. Puis à chaque fois, il riait de bon cœur, comme si c'était la première fois qu'il entendait cette chanson-là. C'était épouvantable.
Du traditionnel québécois, là.
Mais écoute, hier, pendant le match, si signe de fatigue, là, je suis pas mal convaincu que c'est Marc Denis qui a parlé d'un vilain tour. Je riais tout seul sur mon divan. Et quand Colin Graff a marqué, Guillaume Lefrançois, pour ne pas le nommer, collègue de la presse, m'a texté comme quoi son frère Otto était probablement très heureux, autographe. Puis moi, j'allais lui texter justement pour lui dire que sa grand-mère, Steffi, devait être ravie de voir le premier but de Colin.
Mais moi, Colin, j'ai toujours aimé ses frères jumeaux, là, Patin.
Patin.
Des graphes.
Des graphes?
Ouais. On va enchaîner quand même rapidement. Mais c'est un ancien de Quinnipiac Colin Graff.
Quand on disait qu'on s'était couché tard, là, ça donne ce résultat-là ce matin. Là.
Parle-moi
de Quinnipiac, là.
Quinnipiac, ça, c'est une autre petite blague à l'interne avec Guillaume Lefrançois qui, je pense, a passé 3 semaines à l'université de Quinnipiac. Il a même écrit sur la bibliothécaire il y a quelques années de Quinnipiac, qui avait probablement des racines lointaines montréalaises. Mais hier, il y avait Colin Graff, qui est un ancien de Quinnipiac, et l'arbitre aussi, Samuel Thomas, je crois, qui a fait sa maîtrise à Quinnipiac. Donc, c'était un match qui allait chercher quand même les passions du côté de Guillaume Lefrançois.
Jordan Samuel Thomas, pour être...
Exactement, Jordan Samuel Thomas. Mais pour revenir au match, les gars, on disait tantôt d'entrée de jeu, il y avait... Oui, le CH obtient les 2 points, mais il n'y avait rien de trop convaincant. Le trio de Celebrini, Eklund et Toffoli ont quand même donné du fil à retordre.
Il va être bon, Celebrini.
Ah non, Celebrini est très, très, très bon. Joueur intelligent. Puis écoute, on dit que Connor Bedard n'est pas entouré à Chicago. Celebrini, c'est quand même mince aussi du côté de San Jose. Hier, c'était possiblement le joueur le plus dominant sur la glace. Du côté des Sharks, ça tournait autour de Macklin Celebrini. Lane Hudson aussi a connu un bon match. J'étais curieux de voir le duel Hudson contre Celebrini. Quelques petits changements. Là. Nick, je pense que tu voulais en parler. Patrick Laine qui dégringole un petit peu dans les trios. Josh Anderson qui se retrouve avec Kirby Dach. J'ai aimé le match de Josh Anderson qui a amené de l'énergie, qui était rapide, bon en échec avant. Ce que Patrick Laine ne réussit pas à faire. Donc, Anderson amenait une certaine vivacité à ce trio-là.
Puis j'ai trouvé que ça a donné des ouvertures à Newhook.
Ouais. Mais Newhook, là, on le dit souvent sur la passerelle de presse, Guillaume puis moi, sa plus grande qualité, Newhook, il patine. Mais après ça, des fois, tu dis, bon, qu'est-ce que
Alex Newhook... Des fois, ça va peut-être trop vite pour son sens du jeu. Là. Des fois, il y a une belle percée, puis là, il arrive, puis on dirait que c'est plus trop quoi faire, parce que c'est ça, il s'est surpris lui-même à certains moments. Mais tu sais, pour revenir sur le point de Josh Anderson, de GF, Anderson est quand même constant depuis le début de la saison. C'est à peu près, à chaque match, on le voit en échec avant, il joue avec une belle intensité, puis je pense que ça peut être bénéfique pour essayer de relancer du moins Kirby Dach là, sur cette
puis il le fait malgré des bobos aussi. Là. Josh Anderson, depuis deux à trois semaines minimum, saute pratiquement tous les entraînements. Donc, c'est pas un Anderson 100% en santé. Mais hier, il a amené son énergie justement à ce trio-là. Mais tu viens à t'en poser des questions aussi, là, à te poser des questions. Est-ce que Kirby Dach est réellement le centre d'avenir de cette équipe-là? Est-ce qu'Alex Newhook est réellement un joueur top 6? J'ai des réserves aussi. On dirait que dans la mauvaise période, tu finis par avoir des indications sur le futur de cette équipe-là aussi.
Parlons-en de Patrick Laine. Pas de points dans ses 5 derniers matchs. Même contre une équipe, contre les Sharks, il n'y a rien qui débloque. Hier, je le regardais, aucune confiance dans son jeu. Il y a eu une séquence, il a strike out sur la rondelle, il a été la rechercher, il a tombé sur le derrière après ça. Il n'y a absolument rien. Là, on l'a changé de trio, mais sentez-vous, bon, là, on est dans l'Ouest, mais on a été à Montréal avant ça. Sentez-vous que chez Martin Saint-Louis, on commence à montrer des signes d'impatience, particulièrement avec les changements de trio qu'on a eu?
Je pense que n'importe quel entraîneur qui ont eu le bonheur de diriger Patrick Laine ont démontré des signes d'impatience. C'est typique de la carrière de Patrick Laine. C'est un marqueur. Quand il est en feu, il est en feu. Il y avait la lune de miel en début de saison avec le CH. Mais à 5 contre 5, il n'a jamais révolutionné cette équipe-là non plus. Donc, si les équipes adverses réussissent à le contenir en supériorité numérique, hier, je pense qu'il y a eu un tir de mémoire, là, j'ai un one-timer en avantage numérique. Sinon, c'était assez tranquille dans le camp de Laine. Il patinait avec Jake Evans et Joel Armia. Tu disais, bon, deux Finlandais, peut-être que ça peut aider Laine. Mais non, on le voyait très, très, très peu. Mais il ne faut jamais oublier, les Blue Jackets de Columbus ont payé pour sortir Patrick Laine. Ils n'ont pas fait un cadeau, là. Ils ont donné un choix de deuxième tour pour se départir du contrat de Laine. Donc, il n'y avait pas un grand intérêt à travers la Ligue nationale. Les autres équipes voulaient que les Blue Jackets absorbent une partie du contrat. Du côté de Montréal, on va probablement vivre avec Laine pour cette saison, l'an prochain, mais je vois difficilement une association à long terme entre Laine et Montréal.
C'est qu'à un moment donné, il va tomber dans quelle chaise, ce joueur-là? Il y en a des joueurs comme ça, souvenez-vous de Mike Hoffman, qui sont unidimensionnels et extrêmement inconstants. Quand il va renégocier son prochain contrat, lui, avec ce qu'il fait présentement, il tombe dans quel type de chaise, quel type de contrat? Est-ce que finalement... C'est un joueur, j'essaie de trouver un comparatif, là, mais un joueur comme ça qui... Tu sais, au final, c'est un deuxième choix au total. Pas le choix de dire que sa carrière est un peu une déception par rapport au potentiel qu'il avait montré dans ses débuts avec les Jets.
Ben, il y a une arme qui... Son tir est exceptionnel. Ça reste un des meilleurs tirs au niveau de la Ligue nationale. Mais si Laine marque pas, comme... T'as parlé de Mike Hoffman, je me souviens de Michael Ryder, qu'on disait de lui qui était un marqueur de 30 buts, mais qui apportait peu au jeu d'ensemble. Dans le cas de Laine, c'est un petit peu la même histoire. Puis à 8,7 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent que tu veux investir sur un gars qui a un impact pratiquement à chacune des présences. Puis c'est pas le cas dans le cas de Laine. Mais du côté de Kent Hughes et Jeff Gorton, on était très conscients aussi de cette réalité financière-là. On est prêt à vivre avec ça pour 2 ans, mais je serais surpris. En tout cas, on verra. Ça va dépendre aussi de ce qu'il va exiger dans 2 ans, mais à 8,7, je ne suis pas convaincu que c'est le meilleur investissement.
À travers les...
Ouais, mais c'est aussi... J'amènerais peut-être le point que, tu sais, Laine n'est peut-être pas le joueur que tu veux dans ton équipe pour sonner la charge puis être le gars principal qui va amener ton offensive. T'sais, on parle quand même d'un joueur qui a eu des très bonnes saisons. Là, à Winnipeg, une saison de 70 points, une saison de 64-63. C'est un joueur qui est quand même... qui peut amener son lot d'offensive autre que les buts en avantage numérique. Mais... C'est peut-être un joueur qu'il faut que tu entoures très bien, qui va être peut-être ton deuxième, troisième meilleur attaquant, mais qui va être capable d'être bien entouré puis qui n'aura pas la pression d'être celui qui va sonner la charge. Là. Je pense
c'est aucun doute. C'est un bon point.
C'est peut-être ça, c'est la nuance. Si tu dis dans quelle chaise il va tomber, ben si c'est une équipe qui aspire à la Coupe Stanley cette année-là, qui va le chercher, ben t'as les éléments autour, puis ton Patrick Laine, tout dépendant du salaire que tu lui offres, ben devient une sorte de complément, un excellent joueur sur l'avantage numérique, un bon joueur de deuxième trio. T'sais, je pense qu'il y a moyen de moyenner, mais dans les dernières années, t'sais, à Columbus, avec Montréal, on dirait qu'on se fie beaucoup sur lui pour être le joueur d'impact, puis c'est peut-être pas nécessairement la chaise qui lui convient.
Il faut juste pas se surprendre quand il s'efface pour 5-6 matchs. C'est ça, la carrière de Patrick Laine. Puis peut-être que l'an prochain, l'arrivée d'un Ivan Demidov à l'aile, on s'amuse ce matin, là, mais peut-être qu'un Demidov avec Kirby Dack puis Laine pourrait profiter d'un joueur aussi créatif qu'Ivan Demidov, puis réussir à en marquer quelques-uns à 5 contre 5 aussi.
On va dire, la question, moi, c'est est-ce que Martin Saint-Louis est capable de le convaincre d'être assez régulier pour faire de lui un Phil Kessel? Parce que Phil Kessel, avec les Penguins de Pittsburgh, c'était un peu ça. Fait, la carrière de Phil Kessel, c'est... Tu sais, il est capable de marquer, mais des fois, l'effort n'est pas tout le temps là. Des fois, il est un peu plus amorphe. Mais il reste qu'avec Malkin, avec Crosby, puis tout ça, on en a fait un joueur où il n'était pas, comme tu as dit, Guillaume, le fer de lance de cette équipe-là. Mais quand c'était le temps de la mettre dedans, puis il faisait souvent, puis il faisait avec assez de constance.
Ouais, puis Phil Kessel a quand même eu de très bons parcours en série avec les Pingouins. C'est un joueur qui se présentait. C'était pas uniquement un marqueur. Jouait jamais avec Sidney Crosby parce que Sidney était incapable. Peut-être le tempérament, le côté un petit peu nonchalant de Phil Kessel. Crosby voulait des gars plus en ligne droite. Mais là, Kessel, on parle d'un gars qui a eu des saisons de 90 points, 80 points à répétition, 992 points en 1286 matchs pour Phil Kessel. Puis en série, quand les Pingouins ont eu deux conquêtes d'affilée, c'est 22 points en 24 matchs, puis 23 points en 25 matchs. Donc, dans les grands moments, Kessel était présent, mais c'est un bon point. Kessel, c'était un bon troisième attaquant d'une équipe. Il y avait Crosby devant lui, il y avait Malkin devant lui. C'est pas lui qui prenait l'équipe entièrement sur ses épaules.
Non, exactement. On en parlait la semaine passée, on n'avait pas encore le verdict, mais blessure assez grave. Merci pour Caden Goulet. Lacération du quadriceps, l'absence va être là, puis tout ça, mais on le sent aussi, ça se sent dans le jeu, dans les défaites qu'on a vues. C'est là qu'on constate toute l'importance qu'un défenseur aussi complet comme Caden Goulet a sur cette équipe-là.
Ouais, puis on avait commencé à voir déjà les lacunes défensives des Canadiens qui revenaient, là, un peu ce qu'on avait vu au début de la saison, surtout au mois de novembre, là, les revirements en zone défensive, les couvertures manquées. J'ai eu l'impression que ça s'en venait, puis là, tu perds Caden Goulet. On dirait que ça a juste comme accéléré les choses. Tu sais, on a remanié un peu les paires défensives, puis on dirait que des fois, on se gratte la tête, on se dit, ce serait qui tu jumelles avec ça. Qui, parce que, OK, t'as un Matheson, t'as un Hudson qui sont plus portés sur l'attaque, t'as des défenseurs plus défensifs, un Harbert Jacquet qui a connu de certains bons moments récemment, mais que là, dernièrement, c'est un peu plus difficile. David Savard qui est fiable, mais on dirait que tu sais, lui aussi connaît des moments plus difficiles. Donc, c'est difficile de trouver vraiment les bonnes paires défensives pour Martin Saint-Louis, puis de retrouver un peu la structure qui fonctionnait vraiment pendant cette bonne séquence-là. Là. C'est pas seulement les deux défenseurs, là, c'était vraiment l'unité de 5 en zone défensive qui était vraiment efficace. Ça a commencé à tomber, puis là, tu perds ton meilleur défenseur défensif. Je pense que ça se remarque, ça s'est remarqué assez rapidement, cette perte-là. Puis je pense que après ce match-là, moi puis JF, on se parlait, puis on se disait, faut noter la date parce que c'est peut-être ici que ça vient de casser là, pour le Canadien, parce que il était déjà dans une passe un peu plus difficile, mais là, on dirait que ça a juste accéléré les choses.
Puis autant on pouvait dire que l'ajout d'un défenseur changeait le portrait de la ligne bleue avec Alexandre Carrier. Tout le monde tombait, on dirait, dans les bonnes chaises. La perte d'un seul défenseur crée le même phénomène, mais à l'envers. On dirait que là, un peu tout le monde se repositionne dans la mauvaise chaise.
On est de retour en novembre.
Oui. Puis Martin Saint-Louis cherche les bonnes combinaisons à ligne bleue. Harbert Jacquet contre les Sharks de San Jose, c'était pas un match facile. On lui demande aussi maintenant des minutes en infériorité numérique, un rôle ça reste assez méconnu pour lui pour l'instant au niveau de la Ligue nationale. Jaden Struble, il y a une raison pourquoi il se retrouvait dans les estrades quand tout le monde est en santé. Ça devient un top 6 qui est plus mince. Puis tu places Matheson, Hudson ensemble. S'il y a des soirs où ça va très bien, il y a des soirs où c'est plus difficile pour un duo où les deux sont plus à caractère offensif. Donc, ça dénote aussi, sans dire manque de profondeur, oui, c'est une équipe en reconstruction. Il n'y a pas des tonnes d'options quand tu perds un joueur. Puis Goulet, de la façon qu'il a chuté, là, son patin qui coince dans une craque de la glace, puis probablement qu'il ferait la même chute 1000 fois, il n'y aurait aucune autre occasion où il se blesse de la sorte. Mais tu voyais aussi dans le non-verbal des joueurs le lendemain, ça pesait sur l'équipe, la perte d'un joueur comme Cannon Goulet, puis je serais surpris qu'on le revoie là, d'ici de la fin de la saison.
Non, ça va prendre... Écoute, on va souhaiter que oui, là, parce qu'honnêtement, c'est une blessure qui on l'espère aussi, va pas nuire à sa carrière, là, parce que c'est majeur.
Il a déjà eu son lot de malchance.
Ouais, en plus, c'est ça, Goulet, en plus. Là.
J'ajouterais, tu sais, tantôt, Jeff, tu parlais des questions à se poser sur Kirby Dax, sur Alex Newhook. Je pense qu'en défensive, quand tu regardes ça, oui, tu sais, on se disait, le Canadien, il y a plein de bons jeunes défenseurs et tout ça, mais est-ce qu'on est capable d'en identifier un jeune défenseur fiable défensivement qui va devenir peut-être l'équivalent d'un Caden Gooley en ce moment chez le Canadien? Ryan Backer, peut-être, mais tu sais, je veux dire, c'est un joueur qui va manquer une saison complète d'activité. Est-ce qu'il va être à la hauteur dans 2-3 ans quand on veut être une équipe compétitive? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Donc, je pense qu'il y a une question à se poser aussi cet été, peut-être dans les prochains mois, d'acquérir un défenseur fiable défensivement avec peut-être un peu plus d'expérience qu'un jeune qui va pousser dans les prochaines années, parce qu'en ce moment, dans la hiérarchie de l'équipe, on dirait que j'ai de la misère à identifier vraiment un jeune défenseur qui va devenir un pilier là, comme Caden Gooley. Puis
c'est
Ryan Backer, mais
c'est ça.
Combien de temps ça va lui prendre pour devenir ce défenseur-là?
C'est l'autre question. Les blessures, présentement, font qu'on n'a pas beaucoup de réponses. T'sais, là, il a recommencé à patiner. S'il peut donner, je ne sais pas, 15-20 matchs au Rocket à la fin de la saison, déjà, on va peut-être avoir un petit portrait plus intéressant pour Kent Hughes dans son magasinage estival. Là. Mais il va y manquer cette année-là au niveau de l'évaluation. Là.
Non, c'est une année qui... Bon, une année de développement qui, sans dire, s'envole en fumée, mais c'est une année qui va être difficile pour Ryan Backer. Mais je suis quand même curieux de voir l'utilisation qu'on va en faire de Ryan Backer d'ici la fin de l'année. Patine depuis quelque temps, a fait le voyage même en Californie, donc il reste vraiment dans l'entourage de l'équipe. Je serais pas surpris qu'on lui donne... Il va probablement jouer avec le Rocket là, avant de jouer avec les Canadiens, mais je serais vraiment pas surpris de voir Ryan Backer d'ici la fin de l'année. Puis on parlait d'évaluation de jeunes défenseurs. L'évaluation de Jaden Struble l'an dernier n'est absolument pas la même que cette saison. On n'a pas vu une progression, même probablement le contraire. Là. On voit un gars qui est en perte de confiance. Arber Jacky, c'est jamais non plus en ligne droite comme monté. Il y a de bons matchs, il y a des moments qui s'essoufflent. Avant, on disait que cette défensive-là, il y avait des espoirs en veux-tu, en v'là. T'as eu si longtemps qu'ils n'ont pas joué aussi dans la Ligue nationale.
Non, c'est ça.
Ça reste des espoirs.
C'est ça. Puis c'est pas juste de jouer, c'est d'en jouer une centaine, puis 200 dans la Ligue nationale, que là, tu peux te faire une idée.
Il y a peut-être Logan Mailloux aussi qu'on n'a pas parlé. Mailloux, lui aussi, gravite autour de l'équipe
très,
dernièrement.
Très offensif aussi. Là,
très offensif, ça. Exact.
Un qui a, par contre, démontré des belles choses, c'est Owen Beck hier. Ouais. Bon, quand même, périple assez... a été rappelé tardivement pour le voyage en Californie. Ensuite, va participer au match des Étoiles de la Ligue américaine qui était à Coachella Valley. Et là, ben finalement, dispute le match d'hier. Il a très bien fait. Honnêtement, ma question, c'est combien de temps on peut garder Owen Beck en bas quand on le regarde jouer de cette façon-là? Quand on regarde comment Pezzetta joue aussi, où c'est vraiment difficile pour Pezzetta. À un moment donné, il va falloir prendre une décision. Puis, je veux dire, Owen Beck, à défaut, peut-être pas à 100%, mais il faut commencer à lui donner des matchs de la Ligue nationale beaucoup plus fréquemment du côté du tricolore.
Bien, voyons voir comment il va répondre. Oui, contre les Sharks de San Jose, c'était un très bon match pour Owen Beck. Un des meilleurs attaquants du côté du CH. Ouais. A obtenu plusieurs chances de marquer. A frappé un poteau. A cogné à la porte de Georgiev aussi, qui était là pour se faire battre hier soir. Là. Alexander Georgiev, c'est difficile comme gardien. Mais ce que j'aime d'Owen Beck, c'est peu importe quand il jouait junior, Ligue américaine, si tu parles à ses anciens entraîneurs, c'est un gars qui est excessivement intelligent. Hier, il est venu jouer à l'aile, mais il est venu prendre quelques mises en jeu, trouver une façon de gagner ses mises en jeu. Il y a eu un bon match avec Dvorak et Gallagher, si ma mémoire est bonne. Mais la question, c'est de savoir, entre Owen Beck et Michael Pezzetta, je pense qu'il faut arrêter là, de vouloir protéger Pezzetta et lui donner des matchs par respect pour sa patience, etc., son dévouement pour l'équipe. Owen Beck est un meilleur joueur de hockey que Michael Pezzetta. Il n'y a même pas de débat à ce moment-là. Mais au retour au jeu d'Emil Heinemann, et si tout le monde est en santé, la priorité pour Beck, ça reste de le développer. C'est pas non plus un faux pas s'il passe encore plusieurs matchs avec le Rocket de Laval. On peut être patient avec Beck, mais c'est un joueur qui va faire partie de cette équipe-là à moyen terme. Puis même dans les hautes sphères de l'organisation, ils doivent se poser des questions. Si jamais Jake Evans est beaucoup trop gourmand dans les négociations de contrat, Christian Dvorak, c'est la dernière année de son contrat. Beck peut venir prendre une chaise à partir de la prochaine saison, idéalement comme quatrième centre au départ. Il ne faut pas non plus sauter les étapes, mais c'est un gars qui a un potentiel très intéressant.
Il ne faut pas oublier que le Rocket de Laval, en ce moment, est au premier rang pour le pourcentage de points dans la Ligue américaine. Donc, ça pourrait être un long printemps à Laval, puis ça, c'est de l'expérience que tu ne peux pas acheter. Là. Fait qu'un Owen Beck qui retourne à Laval pour la fin de la saison, puis qui apprend à gérer le rythme des séries éliminatoires dans une équipe qui va probablement être favorite, ben ça peut être aussi bénéfique. Là. Donc, je vois pas... Oui, en ce moment, il fait bien, mais je vois pas ça comme un pas de recul si on le renvoie à Laval. Je pense que l'environnement là-bas, en ce moment, ça je suis pas dans l'environnement de l'équipe, là, mais ça doit être assez plaisant de jouer à Laval en ce moment. Donc, pour lui, ce serait vraiment bénéfique là, d'aller vivre tout ça dans les prochains mois.
Non, c'est sûr que pour Beck, ce sera assurément pas perdant. Bon, les Kings ce soir pour les Canadiens, deux matchs ce week-end, les matchs du Super Bowl qui vont être disputés l'après-midi contre les Devils et le Lightning. Avec ce qu'on vient de vivre comme séquence, on vient de sortir, mais on est à 5 points d'une place en séries éliminatoires. Il y a quand même beaucoup d'équipes présentement, les Islanders, les Blue Jackets, les Bruins qui sont devant. Il faut joindre le Lightning de Tampa Bay, les Red Wings qui ont 5 et 6 points de plus. Est-ce que cette séquence, mauvaise séquence qu'on vient de vivre, et ce à quoi vous vous attendez pour le prochain jour, est-ce qu'à la confrontation, à la pause de la confrontation des quatre nations, lundi matin, là, disons-le de la sorte, les Canadiens sont encore dans le portrait des séries éliminatoires?
Bien, juste en ce moment, le portrait commence à être un portrait compliqué. Il y a beaucoup d'équipes devant.
Il y a même des équipes derrière.
Ouais, mais c'est ça, tu sais. Tu disais, Nick, à 5 points d'une place en série, c'est vrai. Le Lightning a toutefois un match en main. Mm-hmm. Mais si tu regardes le revers de la médaille, c'est aussi à 6 points de la dernière place de l'Association de l'Est. Ou à 2 points de l'avant-dernière place de l'Association de l'Est. Donc, cette équipe-là n'a plus de marge de manœuvre, ne peut plus trébucher trop souvent. Ce soir, au moment où on enregistre, on ne connaît pas le résultat, là, mais les Kings de Los Angeles, dans un 2 matchs en 2 soirs, c'est quand même une commande difficile. Puis au cours du week-end, les Devils, le Lightning, oui, c'est des matchs d'après-midi, il y a toujours une ambiance particulière au Centre Bell.
Mais c'est pas les enfants qui jouent, là.
Non, c'est pas les enfants qui jouent. T'as Jack Hughes qui va arriver avec son sourire le plus radieux, qui va vouloir bien jouer du côté de Montréal. Donc, écoute, la séquence de 5 défaites d'affilée fait excessivement mal. Mais tu pouvais pas non plus maintenir un rythme endiablé jusqu'à la fin de l'année. T'es encore dans le portrait, mais le portrait commence à s'éloigner.
Non, c'est ça. La question, c'est est-ce que le Canadien est outillé pour maintenir cette cadence-là jusqu'à la fin de la saison?
Sans Caden Goulet, je pense la réponse.
Caden Goulet en plus. Peut-être qu'à la pause des quatre nations, on va être encore dans le portrait parce que c'est tellement serré que le Canadien arrache, mettons, deux victoires dans les trois prochains matchs. Ben, ils vont être là, mais est-ce qu'on peut maintenir ça? Je pense qu'on a la réponse.
Si jamais c'est une seule victoire en trois matchs, on va plus parler pratiquement du dernier rang de l'Association de l'Est.
Oui, exact.
C'est ça. Puis, c'est pas qu'ils sont loin, c'est qu'il y a trop de monde dans la course pour. Il y a quelqu'un qui va faire 2 points chaque soir, puis la moitié de la gang va faire au moins 2 points. Il y en a qui va faire un pas aussi, donc c'est de réduire l'écart qui est le plus.
C'est un vilain tour.
Non, c'est ça.
Bon, ça, c'était tiré par les cheveux, ça.
Écoute, Canadien, si on regarde le classement, il dit sacrifice. Messieurs, surtout Guillaume, à vrai dire, poursuit avec. On a parlé du Rocket.
Je peux pas croire. Mais Guillaume, c'est quand même de grands pantalons aussi. Donc, enchaînons. On va y aller. Tu parlais du Rocket?
Je peux pas croire. Hey, Guillaume, Jacob Dobesch, je veux en parler parce que tu t'es assis avec lui, tu as eu une bonne discussion avec lui. Dobesch, moi, honnêtement, je le connaissais pas vraiment. Choix de 5e ronde lorsqu'on l'a repêché en 2020, les Canadiens. C'est un Tchèque qui est arrivé, qui a passé par des programmes américains, qui a jamais passé par les grands programmes qu'on connaît. Peu importe le niveau, il a fallu qu'il tire son épingle du jeu, il a fallu qu'il se signale. Arrive avec le Rocket, une bonne première saison l'an dernier. Cette année, ça allait super bien aussi. Puis là, arrive dans la Ligue nationale de hockey, fait sa marque. Parle-moi un peu de son parcours. Qui fait que, écoute, est-ce que c'est un late bloomer, ce gardien-là? Est-ce que c'est un gardien qui se développe tellement sur le tard que le meilleur est vraiment à venir pour lui?
Ben, si tu regardes son parcours, c'est pas mal ça qu'on en retire. C'est assez particulier parce que, je pense que c'est avant le match contre les Devils de New Jersey, justement, qui allait, Dobesch allait affronter Jake Allen. Puis on discutait à bâton rompu, il y avait quelques collègues, puis tu sais, les matins de match, les gardiens ne parlent pas, on le sait.
Jamais.
Mais Dobesch rangeait son équipement, puis il jasait, je pense que c'était avec Arpin Basu. Fait que je me suis approché, tu sais, puis là, il racontait que « Ah, Jake Allen, c'est mon gardien », puis dans ma jeunesse, je le regardais, puis tu sais, j'ai comme pas cliqué tout de suite, mais là, il dit « Ouais, ben tu sais, j'étais à Saint-Louis, j'habitais à Saint-Louis, puis c'était lui le premier gardien, puis là... » Là, le soir, je pense que j'ai dit à Jeff, j'ai dit, tu sais, on dirait qu'on ne la connaît pas, son histoire. Il était à Saint-Louis, mais c'est un Tchèque. Pourquoi Saint-Louis? On le sait que c'est une magnifique ville, qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas, mais...
Surtout East Saint-Louis, oui.
East Illinois. On n'a pas visité ça, mais...
vous avez posé.
C'était vraiment...
On a eu assez peur.
C'était vraiment, je me disais, faut creuser un peu cette histoire-là parce que ça doit être intéressant. Puis quand tu regardes son parcours, il a toujours fait des petits pas par en avance, mais tu sais, jamais des grosses étapes parce que à plusieurs moments, il dit, il y avait comme rien devant moi. Il dit, je savais même pas. T'sais, où j'allais m'en aller, parce que quand il est arrivé à Saint-Louis, il a joué dans un programme préparatoire scolaire. Il espérait être repêché dans la USHL, mais il dit, après ma première saison, aucune équipe de la USHL avait de l'intérêt pour moi, voulait me faire une place. Fait qu'il dit, ben, je suis retourné au niveau 3A, puis j'ai rejoué avec l'équipe préparatoire scolaire. Puis là, à la deuxième saison, ben, il y a une équipe de la USHL d'Omaha qui a fait signe. Et je pensais que ça allait débloquer, mais là, rendu là, l'équipe d'Omaha lui a dit « Ouais, mais on n'a pas de place pour toi. Va-t'en dans la NAHL, la
North Ligue nord-américaine. »
Ouais, ligue,
c'est, pas on, l'autre. On a une pas ligue pas différente. Celle, pas, non, c'est ça. Pas celle d'ici.
Pas exactement l'autre. Celle qu'on a au Québec, là, mais non, la Ligue nord-américaine. Donc, il est allé jouer là, puis il a très, très bien fait. Je pense que ses chiffres sont assez... Après 10 matchs
946
à Topeka...
C'est ça, 946.
Exactement.
Avec les pilotes de Topeka.
1,59, 946. Ouais, c'est ça. Puis après 10 matchs, ben là, Omaha, finalement, ils ont dit « Ah, je pense qu'on a une place pour toi. On te voit gauler, là, puis on va te faire une place. » Donc, tu allais jouer terminer la saison à Omaha. Et c'est cette année-là que le Canadien l'a repéré. Puis le repêcher ensuite. Puis, tu sais, à partir de ce moment-là, ces 2-3 années-là, ont été vraiment formatrices pour Dobesch. Puis c'est à partir de là qu'après ça, ça a été un peu plus en ligne droite son parcours, a joué 2 saisons dans la NCAA. Ensuite de ça, passé au Rocket de Laval. Puis là, il est rendu avec les Canadiens de Montréal. Mais c'est ça. Son agent, Alain Roy, disait justement, tu sais, c'est un late bloomer parce qu'au début, bon, on voyait le potentiel, mais C'était difficile d'aller chercher la constance au niveau mental, au niveau physique. C'était difficile de s'établir vraiment comme un gardien qui avait le potentiel de se rendre à la Ligue nationale. Donc, je pense que dans, disons, autour de 17, 18, 19 ans, c'est là qu'on a vraiment vu là, que Dobesch avait ce qu'il fallait pour se rendre à la Ligue.
Mais premièrement, pourquoi il était aux États-Unis? Pourquoi il n'a pas suivi le chemin de développement habituel en Europe?
Ben, il me disait, il était vraiment franc à ce sujet-là. Il dit, en République en Tchéquie, jamais il a senti qu'il y avait le soutien des programmes nationaux, des équipes de haut niveau là-bas. On dirait, il dit, j'étais jamais leur homme, là, t'sais, j'étais jamais dans leur plan. Puis il dit, si j'étais resté là-bas, parce qu'il a quitté la maison à 15 ans. Il dit, si j'étais resté là-bas, je sais même pas si je jouerais encore au hockey aujourd'hui parce que les portes ne s'ouvraient tout simplement pas. Donc, il a dit, ben regarde, moi, je vais aller aux États-Unis, je vais me rapprocher d'où ça se passe, de la Ligue nationale et tout ça. Donc, à 15 ans, quitter le nid familial, est allé vivre, je pense, chez des amis de la famille à Saint-Louis. Puis, tu sais, c'est un contact de la Tchéquie qui lui avait dit « Ah, je connais quelqu'un qui gère un programme à Saint-Louis. » Donc, c'est pour ça qu'il a abouti
un bon,
là. Mais...
Un bon saut dans le vide, là.
Ben oui, à 15 ans. Puis ouais. Là, j'ai dit ta mère a-t-il déménagé avec toi? Ton père, quelque chose? » Il dit « Non, je suis parti tout seul. » Donc, tu sais, je veux dire, c'est là qu'on voit aussi, tu sais, on lui parle, puis c'est un jeune, mais il a quand même une certaine maturité, là. Puis cette maturité-là...
Ben, c'est après la maturité aussi, pour partir seul à Saint-Louis à 15 ans. Là. Non, mais il faut que le jeune homme soit fort mentalement. Là. Ouais. Tu te déracines de tous tes amis, de ton école secondaire. Il y avait un plan en tête. Puis ça, c'est Guillaume Chouet dans ton article. C'est intéressant quand il disait, lui, c'est un gardien qui est formé aux États-Unis, au Canada. Jamais été formé en Tchéquie. Donc, la passion d'un jour peut-être porter les couleurs de la Tchéquie aux Jeux olympiques ou à des championnats du monde, peu importe.
Ça, je l'ai pas écrit, mais parce que ça fitait pas dans l'histoire, mais il dit ça va être intéressant dans les prochaines années si jamais la Tchéquie me fait signe pour un championnat mondial ou pour les Jeux olympiques ou peu importe. Il dit quand tu endosses l'uniforme d'un pays, il dit, faut que tu le sentes dans ton cœur. Puis il dit, moi, les pays qui m'ont formé comme gardien, il dit, c'est les États-Unis puis le Canada. Il dit, en Tchéquie, il se passait pas grand-chose là-bas. Puis tu parlais d'un saut dans le vide, GF, il m'a dit, j'étais jeune, puis j'avais un sentiment,
ouais.
Un pressentiment bizarre que j'allais y arriver, tu sais. Fait que peut-être qu'à 15 ans, quand il s'est retrouvé devant le choix à faire, t'sais, avec cette confiance-là, entre guillemets, de se dire « je vais y arriver », il a peut-être dit « bon, ben regarde, c'est le chemin qu'il faut que j'emprunte pour parvenir à mon but. Puis c'est ça que je vais faire parce que j'ai l'impression que je vais être capable d'y arriver. » Mais de se mettre, c'est un peu dur dans notre réalité nord-américaine qu'on grandit dans les environs de Montréal, qu'on mais a une équipe.
T'as un programme à toi 10 minutes, là.
Ouais, c'est ça, puis c'est le rêve d'à peu près tous les jeunes joueurs de hockey. Tout le monde est conscient de la LNH, de la Ligue junior majeure du Québec, tout ça. On connaît les étapes, mais de se mettre dans la peau d'un jeune Tchèque qui, lui, il me dit, j'écoutais même pas, je regardais même pas les matchs de la Ligue nationale, là. Il dit, moi, je regardais Disney Channel, puis c'était pas un genre de gars qui restait debout pour regarder les matchs de la Ligue nationale.
Ils sont quand même tard là-bas, hein? C'est ça l'affaire.
Là-bas. Ouais, c'est ça. Mais il dit je connaissais l'existence de la Ligue nationale, puis il dit, c'est là que je voulais me rendre. Fait qu'il a pris les décisions en conséquence, mais c'est pas la même chose qu'un jeune de Repentigny, mettons, pour prendre mon exemple, qui grandit à 30 minutes du Centre Bell, qui est allé voir des matchs dans sa jeunesse, tout ça, que le rêve est comme plus accessible. Pour un Tchèque, c'est autre chose. Là. C'est un gros saut dans le vide qu'il a fait. Puis c'est tout à son honneur. C'est un beau parcours. Puis les parcours atypiques, c'est ça. C'est souvent les meilleures histoires. Puis ça, c'en est une belle.
Vous pouvez lire ça sur le site de lnh.com en ce moment. Les gars, écoutez, Balado avance quand même rapidement. Je veux qu'on revienne sur ce qui s'est passé la semaine dernière, les transactions. Une deuxième transaction majeure en un vendredi soir, donc quand je suis seul au bureau, bien évidemment, pour gérer tout ça. C'est tout à fait bien plaisant. Merci aux Canucks et aux Rangers. particulier aux Canucks, parce qu'ils ont bougé deux fois, les Canucks, la semaine dernière. Bon, on savait que ça s'en venait, c'était écrit dans le ciel. J.T. Miller s'en allait chez les Rangers de New York. Il y avait une clause de non-mouvement dans son contrat qui faisait qu'il pouvait pratiquement décider où il allait aller. On s'attendait à ce que le retour soit donc pas aussi intéressant qu'on aurait pu passer pour un gars qui a fait, qui était le meilleur marqueur des Canucks il n'y a pas longtemps. Mais c'est pas un gros retour. Soyons francs. Là. Miller, Eric Brandstrom, qui bon, fait la navette entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, Jackson Dorrington, contre un choix conditionnel de première ronde, Philippe Kittil, qui est super fragile, Victor Mancini. Je sais que les Canucks n'avaient pas le gros bout du bâton, mais est-ce que vous vous attendiez au moins un peu mieux pour J.T. Miller?
Ben, c'est le contrat de J.T. Miller aussi qui est quand même pesant, mais comme tu disais, s'il contrôlait en grande partie sa destinée, ça limite grandement les options pour Patrick Alvin, pour Jim Rutherford. Philippe Hittil, c'est correct. C'est un joueur de top 9, mais sans plus. Il n'y a aucun doute que l'équipe qui gagne la transaction, c'est celle qui normalement obtient le meilleur joueur. Puis pour les Rangers, on n'en a pas parlé tantôt, là, mais dans le portrait des séries, les Rangers n'y sont toujours pas. Mais l'arrivée d'un Miller pour plus de 30 matchs d'ici à la fin de l'année devrait donner une belle énergie à cette équipe-là. Puis ça met fin aussi à une saga interminable avec J.T. Miller, Elias Pettersson, Jim Rutherford qui en avait parlé publiquement que oui, il y avait des chicanes au sein de l'équipe. Donc, c'est un joueur qui était malheureux. Le retour est moyen, mais il y a toujours le choix de premier tour qui est probablement la plus grande pièce de cette transaction-là.
Choix qui est parti parce qu'il a été échangé quelques heures
plus tard. Exact, c'est vrai.
Pour Marcus Pettersson dans une deuxième transaction dans la même soirée. Bon, on échange Pettersson et Drew O'Connor à Vancouver contre Vincent Desharnais, Danton Heinen, Melvin Fernstrom et ce fameux choix-là. On y reviendra à cette transaction-là. Je vais juste amener le bémol suivant. Pour Philippe Kittil, est-ce qu'il fait partie de la gamme de joueurs chez les Rangers? Les Rangers ont énormément de difficultés à développer et faire confiance à leurs jeunes joueurs. On l'a vu pendant longtemps avec Alexis Lafrenière. On l'a vu longtemps avec Capo Caco qui finalement est parti à Seattle depuis ce temps-là. Il a 17 points en 22 matchs. Kittil a 2 points dans ses deux premiers matchs avec les Canucks. Il y a peut-être une carte cachée dans cette transaction-là. Ce serait une émergence de Kittil. Alors, s'il est capable de rester en santé, c'est ça la question, bien évidemment, dans son cas. Mais si jamais ça arrive puis il devient un bon joueur, sans être J.T. Miller, justement, peut-être que ça va mettre un peu un bombe sur la plaie là, du côté des Canucks. C'est peut-être le seul bémol. Mais pour le reste, effectivement, Miller, qui s'ajoute avec les Rangers, est-ce que c'est assez pour aller, un, en séries éliminatoires, puis deux, jusqu'au bout? Parce que, je veux dire, les Rangers, c'est pas les séries qu'on visait cette année, là, c'est la Coupe Stanley. Puis est-ce que son ajout, son retour, faut dire, il a déjà joué à New York, fait qu'il va déjà savoir un peu où s'en aller dans l'aréna, là, peut-être un peu moins de découvertes à faire, mais est-ce que ça fait des Rangers une équipe qui est capable de remonter puis d'être là? Je veux pas parler de Cendrillon parce qu'on aurait dû être en haut, mais à tout de moins, là, une histoire surprenante versus la manière qu'on a joué en saison.
Ah, si cette équipe-là fait pas les séries avec l'acquisition de J.T. Miller en plus, ben là, ça va être. Je pense qu'il y a une couple de semaines, on parlait déjà de catastrophe si les Rangers manquaient les séries, là, mais. Si on rate les séries avec J.T. Miller en plus, ben là, je sais pas, avez-vous un mot pire que catastrophe? Là?
Ce non, serait, c'est dans le...
Non, mais il y aurait, un gros coup de balai du côté de Manhattan.
Ouais, mais non, c'est ça. T'sais, honnêtement, je me pose pas trop de questions sur la présence des Rangers en série. Là, maintenant qu'ils ont fait cette acquisition-là, je pense que c'est une équipe qui a tous les éléments. Reste à les mettre en place puis à trouver une certaine constance dans notre jeu. Kittil, c'est un très bon point que tu amènes, Nick. Ça se pourrait qu'on le voit exploser parce qu'on a quand même vu toujours un certain potentiel. Tu sais, c'était par séquence, mais c'est un joueur qui n'avait pas nécessairement de temps de jeu sur le top 6 régulièrement. Là, tu sais. Fait que, je pense que si on le place dans une bonne position à Vancouver, ça pourrait être la carte cachée. J'ajouterais aussi que probablement que le poids qui s'est libéré du vestiaire des Canucks c'est une acquisition en soi aussi. C'est une équipe qui se bat pour une place en série en ce moment. Là. Fait que, ouais. Si tu fais le ménage dans le vestiaire, ça n'a pas de prix en tant que tel, là, mais je pense que c'est ce qu'on recherchait du côté des Canucks, de régler ce problème-là rapidement, là, pas attendre à la date limite pour couler encore un peu plus. Là. Je pense qu'en ce moment, on est dans la course aux séries. On a fait des bonnes acquisitions.
On a battu l'Avalanche 3-0 hier, d'ailleurs.
Oui, puis les Canucks vont se battre probablement avec les Flames de Calgary pour la dernière carte des séries.
J'ai vu que Sidney Crosby avait texté Rick Tocchet pour lui dire que Marcus Pettersson, c'était un excellent gars d'équipe. Puis on dirait qu'on est allé chercher un peu de gars de caractère, de leadership aussi là-dedans. T'sais, c'est pas des gros noms, mais je pense que l'élément principal, c'était vraiment de faire le ménage dans ce vestiaire-là. Fait qu'on peut pas attribuer, mettons, une valeur à ça, mais je pense que on s'est dit du côté des Canucks, bon, on va prendre un peu moins, mais ça va peut-être être bon sur le long terme. Là, exactement. Mais puis du côté des Rangers, ben, comme pour revenir à mon point, là, c'est très, très surprenant de te les voir rater les séries là, avec l'équipe qu'ils ont,
mais
en tout cas sur papier.
Une présence en série, d'accord, c'est probable, mais un long parcours en série, je serais quand même étonné. Je continue de croire que la ligne bleue, c'est trop mince pour les Rangers. Will Borgen, qui est quatrième défenseur, Ryan Lindgren, peut-être troisième, Uro Vakanainen, sixième. C'est Chesterkin est mieux d'être miraculeux pour que cette équipe-là reste en vie longtemps en série.
On a parlé de Pettersson qui s'est ajouté à la ligne bleue. Dans cette transaction-là, Vincent Desharnais qui s'en va chez les Pingouins. Bon, ça ne sera pas passé comme il pensait, Desharnais, lorsque c'est un contrat de deux saisons avec les Canucks l'été dernier. Lui, il s'attendait à un rôle régulier. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Rick Tocchet l'a très souvent laissé de côté. Nouveau départ à Pittsburgh et déjà là, il s'est senti très bien accueilli et accueilli en français. Jeff, tu as parlé hier à Desharnais. Doit être un homme heureux, là. Il devait être
absolument. Il y avait le sourire dans la voix. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais quand on se parlait au téléphone. Non, mais on comprend là, qu'il était soulagé. C'est 17 fois en 51 matchs du côté de Vancouver où il s'est retrouvé dans les gradins. Mais ce que j'aime de Vincent Desharnais, c'est que c'est un athlète qui est honnête. Il disait, bon, pour essayer de blâmer un peu tout le monde, il ne jouait pas à la hauteur de son potentiel avec les Canucks, se cherchait. Puis il dit, bon, mais aussitôt que tu commences à pas bien jouer, ça crée un effet boule de neige, tu deviens plus nerveux. Il a aimé la présence d'un Noah Jolson avec les Canucks qui était rassurant, qui venait le voir quand ça allait pas bien. Il a adoré la ville de Vancouver. Difficile de ne pas aimer Vancouver, là, les montagnes, c'est une très belle ville. Mais lui, c'est un nouveau départ, puis il voit ça vraiment d'un bon œil. Change de numéro, passe du 73 au 7 avec les Pingouins, mais surtout, Kyle Dubas, très rapidement après la transaction, lui a dit « Nous, ce qu'on veut, c'est Vincent Desharnais. On veut revoir justement le défenseur qui frappe, qui joue en infériorité numérique, qui va être sur la glace pour protéger une avance en fin de rencontre, à qui on va donner 15, 16, 17 minutes dans un rôle défensif. Mais c'est le mandat qu'il veut remplir du côté des Pingouins. Puis ce qu'il a aimé aussi, il dit, bon, mais regarde, il dit, quand j'étais plus jeune, là, il dit, Sidney, c'était un héros d'enfance. Lui, il avait le chandail, je crois que c'était le chandail bleu poudre qu'il avait. Son frère avait le vieux chandail des Pingouins là, aux anciennes couleurs. Donc, il dit, on a grandi en regardant Sidney Crosby. Puis il dit, la première chose que Crosby fait en me voyant dans le vestiaire, c'est qu'il me salue en français, vient me jaser, veut que je me sente à ma place. Donc, rapidement, il a compris pourquoi on décrit Crosby depuis aussi longtemps comme un des grands meneurs. Puis pour lui aussi, c'est un changement. Il y a beaucoup de Québécois dans le vestiaire des Pingouins. Juste à ligne bleue, ils sont trois, avec Christopher Letang, Pierre-Olivier Joseph et Vincent Desharnais. Il y a Bokunji Imama qui est là en ce moment. Il y a Anthony Beauvillier. Donc, l'occasion de parler en français à quelques reprises. Puis ce que j'ai trouvé drôle aussi, quand je parlais avec Vincent Desharnais, il se retrouvait encore dans le brouhaha d'une transaction. Juste avant l'appel, il était en FaceTime avec la propriétaire à Vancouver qui passait pièce par pièce. Puis après ça, tiroir par tiroir pour lui dire qu'est-ce qu'il y avait de besoin, qu'est-ce qu'elle devait ranger dans des boîtes, faisait les boîtes pour lui, les envoyait ensuite par FedEx du côté de Pittsburgh. Puis il dit qu'il s'est enlevé un stress aussi, merci à l'idée de P.O. Joseph. C'est Joseph qui lui disait, écoute, au lieu de te chercher un appartement à Pittsburgh, il dit, pourquoi t'appelles pas Drew O'Connor? O'Connor, un bel appartement à Pittsburgh. T'as un bel appartement à Vancouver. Échanger de domicile aussi. C'est ce que les deux gars ont fait. Donc,
c'est juste que ça prend des plafonds cathédrales pour des...
Oui, oui, oui.
C'est si O'Connor en avait.
C'est 6 et 7 contre 6 et 2, je crois.
Je pense que rendu là, il faut un appartement adapté là, avec des comptoirs plus hauts.
Ça, c'est la vie de ton frère aussi au quotidien, un 6 et 7. Ouais. C'est un grand bonhomme. Mais on le sentait vraiment heureux là, d'obtenir une nouvelle chance. Puis pour lui, tu venais de signer avec les Canucks 2 ans. Tu te dis, bon, mais il me donne 2 millions par année. Il n'y a pas de doute que je fais partie des plans de Rick Tocchet. Puis après 4, 5, 6 matchs, tu prends... place sur la passerelle de presse, disons que le scénario de rêve tombe rapidement là, en cauchemar.
Oui, non, c'est ça. Donc, nouveau. Mais là, bon, chez les Pingouins, soyons francs, là, je pense que c'est le début de là. J'ai tellement l'impression que Dubus tente de il a dit par après, il a dit après la transaction qu'ils sont encore dans la course pour les séries éliminatoires, mais j'ai l'impression qu'il essaie juste de lentement, mais sûrement. C'est une reconstruction à pas de tortue, puis ça, je pense que ça va faire mal pendant longtemps, mais bon, on verra bien ce que Desharnais sera en mesure de faire là, ce que ça donnera aussi dans le cas de Pettersson du côté des Canucks. Transaction qui s'est ajoutée samedi, et moi, celle-là, je l'adore. Honnêtement, je pense que les Stars ont frappé juste dans leurs besoins. On était chercher Mikael Granlund et Cody Ceci contre un choix de première ronde et un choix conditionnel de troisième ronde. En gros, là, il faut que les Stars gagnent la Coupe Stanley, sinon ça devient un choix de quatrième ronde. Là. Donc, rendu là, s'il faut donner un troisième, ce serait correct, mais il y a des bonnes chances que ce soit un quatrième. Je trouve que c'est une acquisition sous-estimée, Granlund. C'est un joueur qui était le meilleur marqueur chez les Sharks cette année. Il est capable d'amener de l'offensive, mais c'est un joueur qui est responsable aussi. C'est un vétéran, il a vu neiger. Je trouve que quand tu es une équipe qui... On en a parlé, je pense que c'est la semaine passée, ou peu importe. Les Stars ont appris à perdre là, dans les dernières années. Ça fait quelques années que... on se rend en demi-finale, on affronte des champions de la Coupe Stanley, on tombe. Un gars comme Granlund, c'est exactement ce que ça te prend dans ton parcours en séries éliminatoires. Le classique, la classique acquisition d'un joueur autonome sans compensation. Il est là pour une année avec un seul objectif, gagner la Coupe. Il n'a jamais gagné, lui, si je ne me trompe pas. Non, exactement. Fait que moi, je trouve
que c'est excellent. Jim Neal avait l'espace aussi sous le plafond salarial grâce à la blessure à long terme de Tyler Seguin. Granlund, c'est un gars en santé, c'est 60 points et plus. S'il reste en santé, c'est 60 points et plus. Puis cette saison, on parlerait de 60 points, comme tu le disais, Nick, avec la pire équipe de la Ligue nationale, les Sharks de San Jose. Donc, c'est une pièce de plus au casse-tête offensif des Stars. Beaucoup, je trouve, de profondeur à l'attaque avec les Stars de Dallas. Sauf le bémol, Miro Heiskanen qui va s'absenter pour quelques mois. Puis Cody Ceci à ligne bleue, j'espère que le plan pour Ceci, c'est
pas de remplacer Miro Heiskanen.
Non, c'est 6 ou 7. On a vu Cody Ceci là, dans le parcours des Oilers Edmonton l'an dernier. C'est un défenseur qui a quand même ralenti. Donc, c'est correct si on parle de profondeur dans le cas de Ceci, mais c'est pas lui qui va venir sauver la ligne bleue des Stars de Dallas.
Non, pas de... Mais écoutez, je pense que le moment où Heiskanen va revenir au jeu, il va faire foi de tout pour les Stars. Tu peux bien mettre qui tu veux en attaque, mais en défensive, tu n'en trouveras pas un Heiskanen sur le marché des transactions.
Puis on dirait que Miro Heiskanen, Guillaume, tu as vu quelques matchs des Stars l'an dernier, là, mais il est toujours meilleur, il est encore meilleur en série qu'en saison régulière. Moi, je l'ai dans un pool, je le trouve pas assez payant saison. Je voudrais avoir le Heiskanen des séries. C'est un gars qui est dominant quand les matchs, là, le niveau s'élève. Là.
Dominant offensivement, mais en défensive, en série, là, quand Miro Heiskanen est sur la glace, t'es pas trop inquiet. Là. Si tu joues pour les Stars, il se passera pas grand-chose dans ton territoire pendant cette présence-là. Fait que j'ai hâte de voir. On parle de mois à mois.
C'est quand même inquiétant.
Est-ce qu'on parle jusqu'au début des séries? Est-ce qu'on parle deuxième ronde des séries? C'est un peu flou.
Quand tu dis comme évaluation, là, comme tu dis, Guillaume,
Month to month.
C'est assez flou.
C'est pas bon signe. Habituellement, c'est le classique quelques semaines. Espérons pour les Stars qu'ils reviendront en santé.
Parce que honnêtement, à ce moment-là de leur cycle, T'sais, c'est une équipe que, comme Nick disait, ils ont perdu les dernières années. Cette année, on les voit peut-être franchir finalement cette étape-là. Si tu arrives en série sans Miro Heiskanen, c'est une grosse pièce du casse-tête qui n'est pas là. Puis ce serait décevant, du moins pour les Stars, là, de voir d'avoir un court parcours en série justement à cause de cette perte-là.
C'est de voir dans le type de blessure. Bon, c'est Mark Stone qui est un peu tombé dans ses jambes. C'est une genre de... Je pense pas que Stone visait ce geste-là, là, mais bon, c'est de savoir est-ce que c'est une blessure à la Patrick Laine ou une blessure à la David Reinbacher. C'est la différence. On se souvient, quoi, il a manqué deux, trois mois, Laine, là, quand c'était.
Ouais, Laine, c'était 8 à 10 semaines.
Ouais, c'est ça.
Reinbacher.
C'est 4 à 6 mois.
4 à 6 mois, exact.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est de savoir, c'est bon, on ne va pas nous le révéler, là, mais effectivement, ça pourrait aller loin en série pour le retour d'Heiskanen, ce qui est absolument pas de nouvelle pour Jake Oettinger. Thomas Harley qui va devoir prendre la relève, qui est un jeune défenseur, ça a demandé beaucoup pour un jeune comme Harley. D'après moi, Jim Neal va continuer à aller à magasiner un peu, voir ce qui pourrait tomber dans sa main. Je voulais juste vous demander, êtes-vous surpris de voir que ça s'active aussi rapidement que ça? Est-ce que selon vous, la confrontation, la présence de cette pause-là de la confrontation des quatre nations et le fait que le plafond salarial, on a eu des chiffres, hein, on le sait, là, dans les derniers jours, on a annoncé que dans les prochaines années, le plafond pourrait passer jusqu'à 113 millions de dollars, donc 25,5 millions de plus. Avez-vous l'impression
que... Ça, c'est dans trois saisons.
Ça, c'est dans trois saisons, exactement. L'année prochaine, ça serait 95,5 millions, 104 la suivante, puis 113,5 pour celle d'après, alors que le plafond est présentement de 88 millions. Êtes-vous sous l'impression que, soudainement, toutes les équipes ont plus de marge de manœuvre? Hey, allez chercher un gars là, qui a un contrat, un JT Miller, justement, il reste plusieurs années de contrat. C'est un gros contrat, mais ce contrat-là, il ne sera pas si gros que ça, finalement, dans 2-3 ans. On va pouvoir se le permettre. Avez-vous l'impression que ça va peut-être bouger beaucoup plus et c'est pourquoi ça bouge peut-être aussi rapidement?
Ben, il y a peut-être une raison aussi. Il y a tellement d'équipes d'impliquer dans la course que ça facilite le désir de vouloir bouger plus rapidement. Les prévisions du plafond, ben, oui, là, de le savoir, l'augmentation du plafond pour les 3 prochaines années, ça peut faciliter la vie des DG. Il n'y a pas d'élément surprise. Mais malgré tout, là, les DG ont toujours des tableaux dans leur bureau avec leur formation dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Ils peuvent déjà budgéter. Là, au moins, par contre, ils savent exactement sur quel pied danser avec des chiffres qui sont connus à l'avance. Mais je pense que ça s'explique probablement davantage par une course aux séries où, surtout dans l'Est, techniquement, il y a encore là, jusqu'au 14-15e rang de l'Association de l'Est. Là, pas mal tout le monde est encore en vie, sauf peut-être les Sabres de Buffalo. Donc, ça ouvre la porte à danser un petit peu plus vite qu'à la date limite du 7 mars, je crois, cette année.
Oui, exactement.
Je pense que les équipes aussi voient une certaine valeur dans la possibilité d'amener un joueur pour les 30 derniers matchs de la saison. Tu sais, de vraiment établir quelque chose au sein de ton équipe avant, mettons, la date limite, parce que quelqu'un arrive le 8-9 mars, rejoint ton noyau, puis là, tu sais, t'essaies de trouver les bonnes combinaisons, ça laisse peu de temps. Je pense que les DG, de plus en plus, je pense, il n'y a pas d'exemple qui me vienne en tête, mais il me semble que dans les dernières années,
Ryan O'Reilly à Toronto avait été acquis quand même assez rapidement, je pense que c'était en janvier. Puis regardez O'Reilly là, avec les 5 défaites consécutives de Nashville. C'est un joueur qui pourrait à nouveau changer d'adresse. Je ne serais pas surpris qu'on fasse le balado dans 2 semaines puis il se retrouve ailleurs.
Ben, c'est ça. Je pense que c'est le point d'amener les joueurs rapidement puis d'établir quelque chose puis d'arriver en série où tu n'as aucun doute sur ta formation, puis si tel joueur se blesse, ben tu peux faire telle combinaison. Tu sais. Je pense que ça laisse plus le temps aux équipes d'essayer des choses en vue des séries.
Guillaume, je veux poursuivre, messieurs, pour le reste de l'émission. Guillaume, tu es allé, toi aussi, là, tu es le spécialiste espoir du côté de LNH.com, et tu t'es entretenu récemment avec Michael Misa, qui est un des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage, joueur au statut exceptionnel dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Parle-moi un peu de lui, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression, c'est sûr, avec ce statut-là, avec ce qu'il est en train de faire présentement dans la Ligue de l'Ontario, où il est en tête des marqueurs à 17 ans. C'est pas rien pour un joueur qui est à son année de repêchage. Énormément de pression comme lui. Comment il prend ça, Michael Misa, alors que... Il est encore dans la course. Je sais qu'il n'est pas numéro un là, selon la centrale, là, mais peut-être que dans le cœur de quelqu'un, il est numéro un par contre.
c'est ça l'important.
C'est Valentin, ça vient. Là.
Ah oui, les bons liens. Mais non, Michael Misa, c'est assez impressionnant ce qu'il est en train de réaliser cette année. Là. Tu disais, tu sais, premier pointeur de la Ligue de l'Ontario avec 88 points. Au moment d'écrire le texte, il est encore dans la course pour le premier buteur aussi, mais là maintenant, c'est Nick Lardis qui a 48 buts, Misa en a 40, donc ça commence à l'écart commence à se creuser.
Mais ça, c'était pas assez pour gagner le cœur d'équipe Canada. Là.
Non, ben c'est ça, là, c'était le prochain.
Ça en prend beaucoup, ça. Pour... mais tu sais, c'est un joueur qui est capable d'éviter les distractions, puis c'est un peu le sujet de mon article. C'est un gars qui a eu le statut de joueur exceptionnel pour jouer dans la Ligue de l'Ontario à 15 ans. Cette année, il est dans la course pour le premier rang des pointeurs, pour le premier rang des buteurs, pour le premier rang du prochain repêchage. Il y a beaucoup de bruit autour de lui, puis on dirait que ça ne l'affecte pas. T'sais. On l'a vu là, par le passé, il y a des espoirs qui, à leur année de repêchage, connaissent une petite baisse de régime parce qu'il y a trop de pression, parce que les attentes sont un peu trop hautes, puis on commence à regarder, à se comparer aux autres, puis à se mettre une pression supplémentaire, puis on croule sous cette pression-là. Michael Misa, lui, on dirait que ça fait juste le servir. Puis tu sais, l'an dernier, c'est un joueur qui a gagné la Coupe Memorial avec le Spirit de Saginaw, donc il a quand même un bon pédigré, une bonne feuille de route. Il a vécu des choses pour un gars de 17 ans, puis je pense que c'est vraiment ça qui l'aide dans cette saison-là pour livrer la marchandise là, comme il le fait en ce moment.
Parle-moi un peu de lui comme joueur. Tu le vois progresser, devenir quel joueur, toi, quand tu parles aux dépisteurs et tout ça?
Ah, ça, c'est une excellente question, mais c'est un joueur qui, comparativement peut-être à un Porter Martone, qui est un autre bon espoir de la Ligue de l'Ontario, qui est très, très offensif. Je pense que c'est un gars qui, s'il ne joue pas sur ton top 6, je ne sais pas dans quel rôle tu pourrais l'utiliser, mais en ce moment, il n'y a aucune raison de croire que ce gars-là ne jouera pas sur un top 6 dans la Ligue nationale. Mais je pense que c'est un joueur très, très intelligent, très offensif, qui pourrait... On lui a pas apposé l'étiquette de joueur générationnel, là, puis je pense avec raison. C'est un gars qui a eu son statut d'exceptionnel dans la Ligue de l'Ontario, mais je pense que c'est un gars qui pourrait facilement viser à son sommet dans la Ligue nationale un 80-90 points, là, certainement. C'est un joueur qui en tout cas, en ce moment, à 17 ans, qui a prouvé beaucoup de choses dans la Ligue de l'Ontario, qui est très, très dominant. Donc, on parle de Matthew Schaefer comme numéro 1, Porter Martone, James Higgins, mais Michael Misa est aussi là. Puis je pense que de tout ce groupe-là, c'est probablement celui qui connaît la meilleure saison en ce moment. Donc, ça va être à surveiller d'ici le prochain repêchage.
Y a-tu une petite crotte sur le cœur de ne pas avoir été invité par Hockey Canada?
Non, je pense.
T'as-tu osé y en parler? Ben, ou...
C'est parce que l'affaire là-dedans, c'est que son entraîneur, Chris Lazary, c'était l'entraîneur adjoint avec l'équipe Canada.
Oui, hein. Ah, ça n'a pas été assez pour avoir au moins une petite invitation.
C'est encore plus surprenant de ce point de vue-là, mais je pense que tu sais, il a fait son deuil de ça. Je pense qu'ils ont eu des bonnes conversations, Lazary et lui. Au cours des derniers mois. T'sais, visiblement, c'était le choix de l'état-major parce que un Chris Lazary qui a gagné la Coupe Memorial avec Michael Misa l'an dernier, je pense qu'il n'aurait pas hésité à au moins l'inviter au camp de sélection. Mais disons que certaines décisions se passent un peu plus haut.
Il y a des pots cassés à réparer, pareil, quand il revient à Saginaw, lui. Là.
Non, c'est ça, mais je pense que les deux s'en sont parlé avant même que Lazary parte pour le championnat mondial junior. Mais comme tous les joueurs qui sont ignorés, je pense que même s'ils le disent pas, il y a un certain élément de motivation. On l'a vu dans les semaines qui ont suivi cette non-invitation-là. Ben Misa a poursuivi avec le pied au plancher, tout ça. Donc, c'est certain qu'il y a un élément de motivation d'essayer de prouver que t'aurais dû être là avec l'équipe Canada.
Autre espoir du côté de la NCAA, peut-être un gars qu'on verra l'année prochaine avec Équipe Canada, Sacha Boisvert, trifluvien, qui vit sa première saison avec à l'Université du Dakota du Nord avec, j'allais dire, avec les Fighting Sioux, c'est pas vrai, ça s'appelle plus comme ça, comme les Fighting Hawks, je crois. Là,
Fighting Hawks, ouais.
Fighting Hawks, exactement, le nouveau nom de l'équipe depuis quelques saisons. Boisvert qui a suivi un chemin à l'américaine, qui est allé à la USHL, ça aurait peut-être été différent maintenant avec le nouveau règlement. Là. J'ai l'impression qu'on l'aurait vu dans la LHJMQ. Mais bon, il en rêvait de cette vie universitaire-là, d'aller jouer dans la NCAA. Jusqu'à date, est-ce que c'est à la hauteur de ses attentes pour celui qui a été repêché par les Blackhawks de Chicago au 17e, 18e rang, je ne sais plus, l'été passé?
Ouais, dans ces eaux-là, je suis dans en train d'ouvrir sa page, là, mais 18e. Ouais, 18e au total.
T'as pas pire?
Ouais, mais non, honnêtement, il m'a dit, dans les premières secondes de l'appel, là, il m'a dit « je vis le rêve ». Il a vraiment l'air de triper, puis c'est quand même une histoire, tu sais, lui... À chaque fois qu'on lui demandait pourquoi tu as décidé d'aller aux États-Unis puis de prendre ce parcours-là, puis il disait « Ah, j'ai vu un match NCAA en moment donné, puis j'ai trouvé que l'ambiance était malade, puis je voulais jouer là-dedans. » Puis il a regardé des vidéos sur YouTube. À un moment donné, il a tombé sur des highlights de North Dakota, puis il a vu la foule et tout ça, puis il a dit « Bon, c'est là que je veux m'en aller. » Il a parlé à l'université, tu sais, il a fait ses démarches, mais il dit « c'est la seule université à laquelle j'ai parlé ». Puis j'ai même pas visité, me suis engagé, j'ai même pas visité, j'ai dit « c'est là que je vais aller, puis ça va être ça ». Puis il est arrivé cette année, c'est sa première saison.
C'est le fun pour ton recrutement quand un choix de première ronde vient juste te voir et dit « j'aimerais ça participer ».
J'ai vu une vidéo sur YouTube puis j'aimerais partant, ça.
C'est ça, je veux m'inscrire. Comme quand t'as inscrit ton petit au soccer l'été, là, c'est un peu la même chose.
Non, ouais, mais tu sais, c'est un programme qui est assez reconnu aussi.
Oui,
là,
oui, oui.
Les Taves, les Bezer, les Brock Nelson, récemment Jake Sanderson, Shane Pinto. Fait que tu sais, C'est un bon programme de hockey. Puis la particularité là-bas, c'est qu'au Dakota du Nord, il n'y a pas d'équipe professionnelle autre que l'équipe, il y a les sports universitaires de l'université, mais l'équipe de hockey, c'est le programme le plus populaire là-bas. Puis l'entraîneur me disait, on est une petite ville, Grand Forks, de 65 000 personnes. Puis il dit, tous les soirs de match, c'est 12 000 personnes dans l'aréna. Ouais. Qui sont en feu, c'est des salles combes, c'est à répétition. Là. Il n'y a même pas de questions à se poser. C'est certain que l'aréna va être plein.
En quelle année le championnat mondial junior avait été là, tu te souviens-tu? Est-ce que c'est l'année du lockout avec Crosby puis Bergeron puis tout ça?
Ouais, ça fait une dizaine d'années. Je vais le retrouver pendant que vous.
Vas-y, continue, Guillaume. Notre recherchiste s'occupe de ça.
Non, c'est ça. Il disait que l'ambiance est vraiment incroyable. Puis son entraîneur disait quand même ce qui est intéressant pour un jeune qui aspire à la Ligue nationale, qui est un haut choix de repêchage, c'est de jouer devant autant de gens puis d'avoir cette pression-là de performer devant des salles combes. Ça aide quand même à forger un caractère, à forger une identité, puis à bien gérer, t'apprends à gérer, à naviguer à travers tout ça. Donc, c'est un bon environnement pour Sacha Boisvert. Puis de ce que j'ai vu, là, j'ai regardé quelques vidéos parce que je suis pas allé au Dakota du Nord. Même si, messieurs, j'ai une invitation formelle de la part de l'entraîneur, là, son nom m'échappe, Brad Berry, qui m'a dit, « Es-tu déjà venu au Dakota du Nord? » J'ai dit non. Il dit, « Faut que tu viennes vivre l'expérience. » Puis nanana. Puis il avait pas... J'y ai dit, « Ah ouais, cette année, je suis allé à Michigan, Boston College, Northeastern. » Mais il avait pas l'air très impressionné par ça. Là. Il avait l'air de dire que North Dakota, c'est une coche de plus
en termes d'ambiance. Les plages du Dakota du Nord sont magnifiques.
Ouais, mais le recherchiste vient de trouver la réponse. C'est bel et bien 2005.
Donc l'année
de Patrice Bergeron, Sidney Crosby. Okay. Une finale Canada-Russie. Ovechkin, Malkin. Une des plus grandes. Peut-être la plus grande édition du Mondial Junior.
Je me souviens qu'il montrait la Renault Ralph Engelstad, puis il montrait à quel point il était grandiose, que l'entrée, c'est tout du marbre, puis que le logo de l'équipe était incrusté dans les sièges, puis tout ça. Puis ça avait l'air d'une belle place. Là. Il y a eu un généreux donateur qui fait un beau cadeau à l'université.
C'est souvent ça.
Ouais, Boisvert là, porte le numéro de Jonathan Toews. Certains lui voient déjà quelques similarités, sans aller trop loin, bien évidemment. Qu'est-ce que son coach aime dans son jeu présentement? Puis combien d'années son coach attend de l'avoir dans son équipe avant que les Blackhawks lui disent « Viens-t'en avec nous, Grant. »
Ben, tu sais, je pense que c'est un cas qui est similaire à Michael Hage, dont on parlait il y a quelques semaines. T'sais, Sacha Boisvert est à égalité au premier rang des pointeurs de son équipe à sa première saison. C'est 19 points en 24 matchs, si je ne m'abuse. 19 points en 25 matchs, 9 buts. Mais c'est quand même un jeune homme encore, tu sais, 18 ans, 6 pieds 2, 176 livres sur HockeyDB, mais je pense qu'il est à 180 quelques. Mais quand même, tu sais, c'est un jeune qui doit gagner en maturité physique encore. Donc, je pense pas que les Blackhawks vont l'amener dès l'an prochain. De toute façon, je pense qu'il serait mieux servi dans son développement au Dakota du Nord en ce moment que d'aller à Chicago directement. Donc, certainement une autre année. Mais son entraîneur aime ce qui fait la marque de commerce de Sacha Boisvert depuis des années, son côté hargneux. Dans la USHL, c'est un gars qui n'hésitait pas à acheter les gants là, dans la NCAA. C'est un petit peu plus compliqué parce que t'es expulsé du match et t'as un match de suspension par la suite. Mais il dit il a trouvé la ligne. Là, puis on a une photo dans l'article qui est casse à casse, grille à grille avec un autre des joueurs. Il est capable de quand même amener ce côté-là hargneux puis sa fougue dans le match. Puis son entraîneur le disait, c'est un gars qui a le talent pour jouer dans la Ligue nationale. C'est un gars offensif qui est capable d'amener une contribution à l'attaque, mais d'un autre côté, qui amène aussi l'aspect papier sablé, puis l'aspect hargneux. Donc, ça a sauté aux yeux de son entraîneur cette année. Puis il disait, Jonathan Toews, lui, était assistant entraîneur quand Toews est passé par North Dakota. Puis il dit, ça a été le capitaine de notre équipe. Puis j'ai posé la question parce que, dès le repêchage, Sacha Boisvert était au podium. Puis là, on lui disait, ah, tu t'en vas à North Dakota, Toews aussi. Puis, tu sais, les médias de Chicago ont fait le lien assez rapidement. Ça me semble être des comparaisons assez intenses pour un joueur quand même qui vient d'être repêché. Donc, j'ai demandé à son entraîneur, tu vois-tu des similitudes? Puis est-ce qu'il faut peut-être plus gérer les attentes? Parce que c'est peut-être pas deux joueurs similaire, puis son entraîneur en a comme un peu rajouté en disant, ben écoute, au niveau du caractère, au niveau du leadership, je vois vraiment des rapprochements à faire entre les deux. C'est des gars d'équipe, c'est des gars qui font passer l'équipe en premier, c'est des gars qui ont toujours la pédale au plancher, puis il dit, Toews a porté le C de capitaine à son passage ici, puis il dit, je serais pas surpris de voir Sacha, tout dépendant combien d'années il reste là, porter au moins une lettre sur son chandail d'ici la fin de son parcours à North Dakota. Donc, en tout cas, première moitié de saison, on peut dire que Sacha Boisvert a fait une très, très bonne impression de ce côté-là. C'est une belle histoire qu'il est en train d'écrire.
Guillaume, tu parlais tantôt de ton passage à Ann Arbor, à l'Université du Michigan, pour aller rencontrer Michael Hage, mais tu as rencontré un autre joueur qui a des racines québécoise, Dakota Réaume Mullen. Bon, Réaume comme dans Manon Réaume, sa mère, comme dans Pascal Réaume, son oncle, qui a gagné la Coupe Stanley avec les Devils, d'ailleurs, Réaume. Donc, tu sais, qui vient d'une famille de hockey, qui a un nom de hockey. Comment il... Bon, parle-moi un peu plus, parce que moi, honnêtement, je le connaissais pas. Je savais que Manon avait un fils, Dylan, qui était gardien. Dylan Saint-Cyr, qui a joué avec Notre-Dame, entre autres. Il a joué avec quelques programmes dans l'NCAA, mais qui n'a pas été repêché là, dans son cas. Mais Dakota, il a plus de chances de l'être cette année. Il est classé 57e au niveau des espoirs nord-américains là, cette année. Ouais, parles-tu français ou y a-tu quelques petits...
La première fois que je l'ai rencontré, c'était l'an dernier. Il jouait avec le programme de développement américain, là, le NTDP aux États-Unis. Puis il m'avait dit, tu peux me poser des questions en français, je comprends, mais je préfère répondre en anglais. Puis ça, je suis capable de le comprendre. Puis je le respecte comme journaliste parce que souvent, si les gars font l'effort, c'est le fun, mais les réponses sont un peu plus brèves. Et il m'a répondu en anglais, mais c'est ça, il comprend le français. Puis d'ailleurs, la mère de Manon Réaume, sa grand-mère était là à Michigan fin de semaine que je suis allé, puis tu sais, elle vient de Sherbrooke. Donc je pense que probablement qu'avec sa grand-mère, il doit parler en français, là, mais avec un journaliste, c'est certain que c'est peut-être plus intimidant, disons. Mais non, c'est ça, il a participé, il a fait le NTDP, maintenant il est à Michigan, c'est sa première saison. Il y a plusieurs observateurs qui le voient être réclamé dès la deuxième ronde, peut-être en troisième. C'est un défenseur, lui aussi quand même un petit gabarit, là, en ce moment, je parle, il est à 6 pieds, 181 livres, donc il y a du travail à faire au niveau de la maturité physique. Mais c'est un défenseur défensif qui fait son petit bonhomme de chemin. Son entraîneur est bien satisfait de ce qu'il montre jusqu'à maintenant. T'sais, il dit on veut pas compliquer les choses avec lui, on veut garder ça simple. Puis on se concentre sur des bonnes sorties de zone, bonnes premières passes, tout ça. Donc,
c'est aussi qu'il est jeune. Hein? Je veux dire, des gars de son âge à NCAA, c'est pas fréquent. Là. D'habitude, il serait peut-être année de repêchage, c'est dans USHL, là, très souvent.
Il y a eu 18 ans le 18 décembre, là, donc c'est quand même un très jeune garçon. Puis Michael Hage disait que tout le monde dans l'équipe est un peu impressionné justement par sa manière de se comporter parce que c'est un des plus jeunes de l'équipe, sinon le plus jeune. Puis tu sais, il est capable de mettre son grain de sel dans les matchs, puis dans le vestiaire, s'intègre plutôt bien. Puis c'est ça, Manon Réaume était là aussi lors de ce match-là.
Comment elle analyse ça, comme mère ou comme conseillère au développement des joueurs chez les Kings de Los Angeles?
Je pense que c'est un hybride. Là. Quand je l'ai vu dans les estrades, elle avait son coton ouaté Michigan. Là, donc je pense que elle était plus dans son rôle de hockey mom. Là, elle encourageait Dakota, mais... Ça a dit, je veux pas m'impliquer plus qu'il faut, là, puis leur mettre une pression supplémentaire, puis là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Elle dit, Dakota me demande souvent après les matchs, qu'est-ce que tu as pensé? Puis elle dit, j'attends qu'il me le demande avant de lui donner mon avis, puis j'y amène une couple de points, mais elle dit, il y a des entraîneurs pour ça et tout, mais elle l'aide plus, je pense, du côté. Préparation en vue des prochains niveaux parce que elle participe au camp d'entraînement, au camp estival des Kings de Los Angeles parce qu'elle est conseillère justement là-bas depuis 2022, je crois. Donc, elle sait ce que les organisations professionnelles recherchent chez les jeunes. T'sais, ils veulent des gars qui ont une bonne mentalité, qui sont capables de bien gérer la pression, qui ont un bon mindset, une bonne mentalité pour le prochain niveau. Puis je pense que c'est de ce côté-là qu'elle est capable de plus l'aider, là, du côté mental, préparation au prochain niveau. Puis c'est ce qu'elle a appris dans les deux dernières années. Parce qu'avant, oui, elle est dans les sphères du hockey, mais là, de le voir du point de vue d'une organisation professionnelle, bien, ça l'aide justement à faire son travail de conseillère. Elle se promène un peu à travers les États-Unis pour les espoirs gardiens des Kings et tout ça, puis même des espoirs à d'autres positions. Je pense que c'est plus de l'encadrement et tout ça, son rôle, là, mais justement, elle se sert de ça pour épauler là, Dakota dans sa route vers la Ligue nationale. Là.
On va suivre ce parcours-là jusqu'à l'été prochain, d'ailleurs, le repêchage qui va être en partie à Los Angeles, donc va être dans les terres des Kings, donc on verra bien si finalement Manon Réaume a du poids pour que l'organisation repêche
son fils. Histoire.
Ça serait quand même une très bonne histoire. Hey, Guillaume, merci d'avoir été sur le balado aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
GF, on réveille GF là, qui...
toujours là, toujours présent.
Pas dit un mot depuis qu'il a fait sa recherche, là, mais merci aussi GF d'avoir... Écoute, t'as pas parlé gros à la fin, t'as parlé plus parce que toi, au début, parce que t'avais écouté le match. C'est...
Exact. Ouais. Moi, je me suis couché tard.
C'est ça.
Pas Guillaume. Guillaume a été au théâtre.
Au théâtre, hier, Guillaume.
Je suis un homme de culture.
Oui. Toujours. Merci d'avoir été là aujourd'hui, les boys. Merci aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Prochain balado, comme je vous disais, ça devrait être lundi. On va avoir un spécial confrontation des quatre nations. Donc, on va mettre la table pour le tournoi qui s'en vient, qui commence mercredi prochain. Ça va aller vite quand même, hein, parce que les équipes vont arriver à Montréal lundi, entraînement, la journée des médias le lendemain. Et ensuite, ça commence d'être 12, donc ça va aller très, très
vite.
Il y a
des matchs du Canadien samedi et dimanche, puis lundi, déjà le début des entraînements. Donc, ça part vite.
Ça va aller. Au moins, les joueurs des Canadiens vont déjà être sur place là, pour les quelques-uns qui participent à tout ça. Donc lundi prochain, attendez-vous à ça. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous êtes certains de rien manquer sur tout ce qu'on va avoir. Tout ce que vous allez faire, les gars, sur la confrontation, ce que je vais faire aussi. Je pense qu'on va travailler en équipe là-dessus. Donc, merci encore. Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.